Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous présentons le nouvel de ce matin à la une de ce journal. Malgré les engagements, y compris un cessez-le-feu obtenu au Qatar, les combats continuent de faire rage au nord et sud Kivu. Dimanche, les rebelles de l'AFC AM23 ont pris d'assaut le centre des Kaziba dans le Walungu après une offensive féroce lancée la veille contre le Wazalendo de le FARDC. Cette avancée stratégique leur ouvre un accès crucial au haut plateau des Minembwe, exacerbant ainsi la crise et plongeant la région dans une incertitude encore plus profonde. Démolition des constructions illégales dans la baie d'Engalema et autres zones non constructibles. Félix Tshisekedi propose une démolition conforme à la loi. Lors de la 41e réunion du Conseil des ministres, il a insisté sur la nécessité de sensibiliser et d'accompagner les populations concernées pour garantir une transition respectueuse des droits humains. Dans cette édition, nous abordons à nouveau l'accord de principe pour la paix et le développement entre la RDC et le Rwanda, signé le 25 avril à Washington DC. Cet accord, qui inclut le respect de la souveraineté et des frontières, continue de susciter des discussions. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, nous offre son analyse sur l'impact de cet accord. Ne manquez pas cet entretien. C'est tout pour les titres. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle en provenance des zones des combats au nord et sud Kivu. Il y a 5 jours, le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC AM23 sous la médiation du Qatar ont signé une déclaration conjointe s'engageant à travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. 2 jours plus tard, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration de principe reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir les groupes armés. Mais cependant, malgré ces engagements, les combats se poursuivent au nord et au sud Kivu, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques. Les détails avec Martial Papimukeba.
Au sud Kivu, les rebelles de l'AFC M23 ont pris dimanche les centres de Kaziba dans le Walungu après une offensive lancée la veille contre les Wazalendo et les FARDC. Cette avancée leur ouvre l'accès au haut plateau de Minembwe où leurs alliés Tiranero, Gumino et Android étaient bloqués. Des violents combats ont aussi éclaté samedi à Irambikatana entre les Wazalendo et l'AFC M23. Les rebelles renforcent en parallèle leur position dans les territoires des Kabare et des Kalehe. Au nord Kivu, les rebelles se sont retirés de leur position avancée de Kibati dans les Walikale. En revanche, dans les Masisi, des violents combats les ont opposés vendredi aux combattants de l'APCLS sur plusieurs axes du secteur Osobanyungu. Le manque de confiance et la méfiance entre les deux camps, d'une part, et l'absence d'un mécanisme de surveillance d'y cesser les faits et d'une force d'interposition risque de compromettre les efforts diplomatiques en cours selon certaines sources. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sachez aussi que la RDC et le Rwanda, sous l'égide du gouvernement des États-Unis, s'engagent à élaborer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun pour les deux pays d'ici le 2 mai prochain. Cette déclaration a été faite vendredi dernier à Washington à l'issue de la signature de l'accord de principe pour la paix et le développement économique entre la RDC et le Rwanda. Le principe énoncé dans cette déclaration vise à restaurer la paix à l'est du pays et faciliter la reprise des relations entre les deux pays. Quel est le contenu de cet accord? La réponse avec Jean Gandou.
6 principes au total sont bien définis dans cette déclaration. Ils portent d'une part sur la souveraineté, l'intégrité, la gouvernance de chaque pays, les préoccupations sécuritaires, le cadre d'intégration économique régionale. Et d'autre part, la prise en compte du retour des déplacés internes, des réfugiés, les soutiens à la MONUSCO, aux forces et mécanismes régionaux pour aboutir à un accord de paix. Par exemple, le premier principe demande au Rwanda et à la RDC de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Un principe principe qui demande à chaque parti de s'engager sur une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. En clair, chaque pays reconnaît les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ses frontières, et surtout de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Au plan sécuritaire, les deux pays s'engagent à créer un mécanisme commun de coordination sécuritaire afin de lutter contre les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles qui menacent les intérêts communs de sécurité.
La déclaration de principe signée le 25 avril dernier à Washington DC entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du département d'État américain, saluée par la MONUSCO. Dans un communiqué publié hier, la mission a souligné l'engagement des participants à soutenir son mandat, notamment la protection des civils et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO a également noté la volonté des participants de renforcer sa capacité d'action ainsi que celle des forces et un mécanisme régional. Plus de détails avec Alain Rung.
La signature de cette déclaration traduit une volonté de consolider les avancées obtenues grâce aux efforts antérieurs et d'ouvrir la voie à un renforcement de la coopération. La MONUSCO demeure prête à soutenir les efforts de mise en œuvre, notamment en matière de protection des civils et de consolidation de la paix, a déclaré Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Cette déclaration de principe constitue une étape importante en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La MONUSCO se félicite de voir les parties s'appuyer sur les avancées obtenues lors des initiatives précédentes, notamment le processus de Luanda et les efforts de médiation menés par le président angolais João Lourenço sous l'égide de l'Union africaine. La MONUSCO se félicite des principes affirmés par les deux pays, le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends et la volonté de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes.
Dans le cadre de la recherche de la paix dans la région du Grand Lac, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost est arrivé dimanche à Kinshasa en provenance du Burundi, marquant ainsi sa première visite de travail dans cette région. Après son passage en Ouganda, il a souligné l'importance cruciale du Burundi en tant qu'interlocuteur clé dans les conflits à l'est du Congo. Bien que l'attention soit souvent portée sur le Rwanda et la RDC, il est impératif de reconnaître que tant l'Ouganda et le Burundi ont également des forces armées présentes à l'est du Congo. Ils jouent aussi un morceau de la partition, a-t-il affirmé. En rapport avec les tensions armées dans l'est du pays, au nord Kivu, la société civile du territoire de Walikale alerte sur la détention illégale et la circulation incontrôlée d'armes à feu par des civils et certains militaires indisciplinés dans la région. Cette situation entraîne une recrudescence de l'insécurité et fait des victimes dans la cité de Walikale ainsi que dans d'autres agglomérations. Dans une note de plaidoyer adressée aux autorités, elle demande la mise en œuvre d'un mécanisme de collecte des armes. Écoutons Fiston Missona, président de la société civile territoire de Walikale.
Il y a déjà des incursions nocturnes, même pendant la journée, qui sont documentées, enregistrées ici et là, que ce soit au niveau du chef-lieu du territoire, que ce soit aussi dans des cités et grandes agglomérations du territoire de Walikale. Il y a des cambriolages, il y a des crépitements de balles ici et là, et tout cela est fait par certains éléments et contrôlé par les VDP, voire même les civils qui détiennent justement des armes et qui ne sont pas contrôlés, et même certains éléments délinquants, indisciplinés au sein de nos forces armées de la République font aussi n'importe quoi. C'est pour cela que nous alertons une fois de plus les autorités congolaises et aussi les VDP de veiller à cela et faire des surveillances pour arrêter ce genre de la situation qui se passe dans les différents axes du territoire de Walikale, pour épargner un peu la population de cette insécurité et qui risquerait aussi d'embraser la situation sécuritaire.
Comme indiqué dans le titre, les constructions anarchiques dans la baie de Ngalima et d'autres zones non constructibles préoccupent le président Tshisekedi. Ce sujet a été abordé le vendredi dernier lors du deuxième point de sa communication à la 41e réunion du Conseil des ministres. Parmi les mesures fortes envisagées pour protéger les populations contre les inondations, Félix Tshisekedi propose notamment la démolition des constructions illégales conformément à la loi. Écoutons un extrait du compte-rendu lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, sélectionné par Alain Hirong.
Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des lois de la République, car la protection de population et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Ainsi, dans le strict respect des procédures légales existantes, il est indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions érigées en violation de normes d'urbanisme, en particulier celles qui entravent les canaux d'évacuation des eaux. Le renforcement de mécanismes de contrôle et de surveillance dans les zones à risque, la mobilisation de la cellule de crise institutionnelle chargée de coordonner l'ensemble des actions de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains et des règles établies.
Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga. La société civile du territoire de Bukama lance un appel à l'aide. Plusieurs maisons ont été détruites par les fortes pluies qui se sont abattues vendredi soir. Certains sinistrés se retrouvent sans abri, exposés aux intempéries. Plus de détails avec Augustin Monga, coordonnateur de cette structure citoyenne en ligne avec Jean Gandou.
Après-midi, vers 17h, s'est abattue une grande pluie dans la cité de Bukama et ses environs, et cette pluie a causé des dommages dans la communauté. Notamment, nous avons des centres de santé qui ont perdu des toitures, et l'équipement même du centre de santé est tout endommagé. Nous avons des écoles qui ont perdu des toitures, certaines même de murs, y compris les habitations. Certaines ou nombreux sont restés sans abri. Alors, voyant l'énorme de cette catastrophe, la société civile lance un cri d'alarme aux hommes de bonne volonté, tels que les ONG nationales et internationales, de nous venir en aide pour cette population. C'est pourquoi nous demandons aussi, puissions aussi avoir un soutien. Vraiment, nous sommes dans l'impossibilité.
Au Kasaï oriental, le samedi est désormais consacré à l'assainissement de la ville de Mbujimayi. En conséquence, les activités commerciales au marché central Wetrafa débutent à 11h. Cependant, sur le terrain, les déchets ne sont pas évacués et certains sont jetés sur la voie publique, augmentant le risque des maladies diarrhéiques et de mains sales dans cette ville déjà touchée par le choléra depuis plus d'un an. Esther Ndalafina pour le reportage.
À quelques mètres de l'entrée principale du marché central Wetrafa, au croisement des avenues Émérance et Dieu m'a donné, c'est un tas d'immondices qui vous accueille. Une heure avant la reprise des activités commerciales, déjà quelques odeurs nauséabondes dégagent. Debaba Mukadi déplore l'insalubrité du marché.
Les salons se font à l'intérieur du marché, on est en train de balayer, on prend ces immondices, on vient les jeter sur la voie publique.
Sarah Ndaya, que nous avons croisée au marché, fait le même constat.
Il y a des saletés au marché. C'est comme si on n'a pas nettoyé. Pourtant, c'est les jours de Salongo. Salongo, c'est pour assainir les milieux.
Faux, rétorque une vendeuse de légumes.
Nous avons l'habitude de balayer ici chez nous. Nous rassemblons les immondices et nous les jetons.
D'après Alphonse Lokosa, administrateur du marché Wetrafa, le marché est grand mais moins occupé.
Vous savez la grandeur de ce marché. On collectionne quelques membres pour aller travailler là où il n'y a pas les gens. Dire que le marché est sale, non.
Signalons que la problématique de la gestion des immondices se pose également au niveau du marché central Wetrafa. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu pour parler santé. 6 cas suspects de la maladie d'anthrax, également connue sous le nom de maladie du charbon, ont été signalés dans l'aire de santé des Kasalala, territoire de Lubero. Selon le médecin chef des zones de santé, un décès a déjà été enregistré. Face à cette situation, le docteur Cyril Mumbere Moussivirois informe que les autorités sanitaires sont en alerte et appellent la population à rester calme et à suivre les mesures de prévention. Il est en ligne avec Martial Papimukeba.
Nous avons déjà enregistré 6 cas suspects d'anthrax, dont un décès. Les cas concernent l'unique aire de santé de Kasalala. C'est là l'épicentre de la maladie. Donc, tous les cas viennent de là parce que ce sont des personnes qui travaillent dans cette aire de santé. Lorsque la maladie s'est déclarée, il y avait une panique générale. Après même le décès, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qui est important, c'est la prévention. Et la prévention consiste à des mesures. Et ici, la question de se rappeler tout simplement les mesures de prévention que nous avons publiées lors de la riposte contre la MVE, la maladie à virus Ebola. Il faut respecter le lavage des mains, éviter les contacts avec les malades. Il faut déclarer le plus tôt possible dès qu'il y a une apparition des symptômes.
Actualité internationale.
En Namibie, le ministre de l'Agriculture, Marc-Albert Angari, nommé le mois dernier, fait l'objet d'une enquête, a confirmé la porte-parole de la police namibienne aux médias locaux qui ont rapporté des accusations de viol portées contre lui par une mineure. La présidente Netumbo Nandi Ndaitwa a relevé Marc-Albert Angari de ses fonctions de ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme agraire. Cette mesure prend effet le mercredi 23 avril, date à la quel Marc-Albert Angari aurait dû présenter sa démission, indique un communiqué de la présidence diffusé sur les réseaux sociaux. La principale formation d'opposition, les Patriotes indépendants pour les changements, s'est dit profondément troublée par l'arrestation du ministre Marc-Albert Angari, accusé de viol, d'enlèvement et d'avortement forcé dans un communiqué. Selon la presse namibienne, les désormais ex-ministres pourraient également être poursuivis pour ce fait dans ce pays conservateur où l'avortement est interdit.
L'invité.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut Thales d'Afrique, basé à Dakar, Sénégal. Il nous offre son analyse sur la récente signature de l'accord de principe pour la paix et le développement entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Frédéric Amani s'entretient avec Alain Hirung. Suivez.
Frédéric Amani, bonjour. Quelle est votre analyse après la signature de cet accord de principe entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique?
Bonjour. D'abord, c'est un prolongement de ce qui a été fait dernièrement à Doha lors de la rencontre surprise entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous l'égide de l'émir du Qatar, et c'est pour parler continu entre les gouvernements congolais et la rébellion du M23 AFC toujours à Doha. En plus, cet accord de principe signé à Washington entre la RDC et le Rwanda vise à rétablir la paix globale dans la région, selon même les termes du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cependant, on comprend bien que cet accord soit motivé par une approche purement économique, dans la mesure où il y a un projet d'accord en gestation entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques de la RDC, mais d'aider. Il y a aussi la volonté des États-Unis d'investir dans la région des Grands Lacs. Et comme vous le savez, cet accord vient en quelque sorte tâter les terrains pour éviter tout désagrément. Comme vous le savez, l'argent n'aime pas les bruits et les investissements américains ne voudraient pas se heurter aux bottes de la guerre.
À travers cet accord de principe, Kinshasa serait-il en train de conquérir, selon vous, le cœur de l'administration Trump?
Cela me permet de comprendre que aujourd'hui, la RDC devient davantage un terrain, un enjeu stratégique majeur pour l'administration Trump dans sa politique africaine où, il y a quelque temps, vous avez suivi, les États-Unis voudraient fermer quelques représentations au niveau de certains pays et concentrer tout au niveau de Kinshasa. Cet enjeu stratégique dont représente aujourd'hui la RDC vis-à-vis des États-Unis devrait interpeller les dirigeants congolais à prendre à bras le corps cet accord pour que ça profite davantage à la RDC et que ce ne soit pas ce qu'on appelle un accord à somme nulle, mais que ça soit un accord à somme multiple, ou si vous voulez bien, un accord gagnant-gagnant comme on le veut. Ils doivent travailler au niveau interne et ils doivent être aguerris des stratégies de négociation pour que cela puisse profiter à la RDC.
Pour vous, quelles sont les conditions pour que cet accord de principe soit réellement une réussite pour toutes les parties?
Vous savez, dans les négociations, on part signer des accords, soit pour les intérêts personnels ou soit pour les intérêts collectifs. Et nous souhaitons que cet accord signé soit pour l'intérêt général de la RDC, pour l'intérêt général du Rwanda et des États-Unis. Et à ce moment-là, on parlera véritablement d'un accord gagnant-gagnant et non signer un accord en position de faiblesse. Et cela risque de, soit de se retourner contre vous ou soit risque de profiter à un seul acteur et vous, vous serez à des spectateurs. Bien, pour revenir à votre question, il y a eu plusieurs accords effectivement signés entre la RDC et le Rwanda d'un côté, entre la RDC et d'autres acteurs pour justement rétablir la paix et la stabilité au niveau de la sous-région. Mais on a toujours assisté soit à des volte-face ou soit à des retournements de situation dans la mesure où, au-delà de parler de manque des volontés politiques entre les acteurs. Je crois qu'il y a aussi un élément important qui manque dans les accords signés, c'est cette contrainte pour amener les acteurs à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Et nous pensons que cette fois-ci, cet accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis va servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et que les investissements américains puissent apporter un plus dans la croissance et le développement de la RDC et du Rwanda. Il est vrai que le souhait de tout humain, de tout Congolais, de tout Rwandais, c'est que cet accord puisse aboutir à des résultats escomptés, c'est-à-dire contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité sous-régionale. Mais nous comptons sur la volonté politique des acteurs, nous comptons sur une sorte de coercition, des contraintes ou des pressions, mais nous comptons aussi sur les efforts au niveau interne des États.
Frédéric Amani, je vous remercie.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut Thales d'Afrique basé au Sénégal, s'entretenir avec Alain Hirong. C'est ainsi que se termine ce journal sur Radio Capi. Nous vous remercions de votre fidélité. Espérons vous retrouver pour une nouvelle édition et la dernière de la matinale. À très bientôt.